Il s'associait à l'expérience d'Adam. Et nous, qui dépassons peut-être Saint-Silouane, pas forcément par la sainteté, nous pouvons aussi prendre à notre sujet l'expérience d'Adam, parce que Adam, c'est tout homme. Et dans cette expérience adamique, partagée par Saint-Silouane et par nous tous, très probablement, il y a cette expérience, ce souvenir de l'innocence dans laquelle nous étions lorsque nous étions encore dans le paradis, c'est-à-dire avant que nous ne connaissions le péché. Et pour Adam, au paradis, tout était pur, tout était beau, il était heureux, il était épanoui, parce qu'en lui il n'y avait aucune ombre. Il rayonnait de la gloire de Dieu, pas de la sienne, mais de la gloire de Dieu. Et par son humilité, son obéissance, sa transparence, il réfléchissait la lumière divine au monde entier, sans s'insérer, sans volonté propre, sans chercher à changer ou à manifester quelque chose de lui-même pour éclairer le monde de la gloire de Dieu. Et puis, après le péché, tout a été perdu. Tout est devenu opaque. Tout est devenu douloureux. Et c'est ce que nous connaissons aussi. Avant de connaître notre état de pécheur, et je peux dire même, avant chaque nouvelle forme que peut prendre le péché pour nous, car il évolue, hélas, suivant les étapes de notre vie, à chaque expérience de nouveaux péchés, nous nous apercevons que nous avons perdu définitivement quelque chose. Et ceci amène une tristesse, une lassitude, une peine qui peut éventuellement conduire même au découragement, qui aboutit au suicide, qui peut aboutir au suicide, comme ça a été le cas, bien qu'il faille apporter quelques nuances et d'autres analyses, comme ce fut le cas, par exemple, pour Judas, dans une certaine forme d'idéalisation de son, si je peux appeler ça d'idéalisation, schématisation, si on peut dire, de sa trahison et de la mort qui s'en est suivie. Parce que cette douleur que nous ressentons, cette perte de la virginité, je ne parle pas que de la virginité physique, bien sûr, mais de l'intégrité de notre âme, nous fait perdre notre innocence et connaître, effectivement, avoir goûté quelque chose suscité par le malin. Et cette tâche nous poursuit après toute notre vie. Pas forcément, en tout cas c'est à rejeter comme une tentation, pas comme une honte, mais comme un regret, moins peut-être, j'espère ne pas dire d'hérésie, moins peut-être de regret de ne pas d'avoir fait quelque chose de, entre guillemets, répréhensible, quoi que ce soit pas d'ordre juridique, notre notion du péché, mais parce que cela nous a fait perdre quelque chose de la pureté de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et ça, on ne s'en remet pas. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager, mais parce que c'est notre expérience à tous. C'est ça l'expérience de notre condition de pécheur. Et comme je l'évoquais précédemment, cela peut conduire jusqu'à la cédille, c'est-à-dire jusqu'au découragement. Mais nous prions constamment Dieu, notamment dans le Notre Père, pour que cette épreuve du découragement nous soit allégée, nous soit écartée. Ne nous laisse pas, délivre-nous, ne laisse pas succomber à l'épreuve. Ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. L'épreuve peut être comprise comme, c'est toute une autre analyse à faire, mais notamment comme l'épreuve de l'assédie, de l'épreuve de la peur, du couragement, de la pusillanimité. Et comme on a connu le Christ, la tentation, dans laquelle il n'est pas tombé, dont il a été vainqueur pour lui-même, mais vainqueur pour nous aussi. Donc, le découragement n'est pas inéluctable. Mais notre vie est, après la connaissance du péché, notre vie est un effort perpétuel pour essayer de retrouver la communion perdue avec Dieu et avec les autres. Non pas pour oublier notre péché, mais pour dépasser notre péché. Et ce qui fait que toute notre vie est mise sous le signe de l'évangile que vous avez entendu du Père miséricordieux et du Fils prodigue, qui nous fait prendre conscience de notre éloignement du Père et du souvenir de la béatitude que nous avions lorsque nous étions auprès de lui, jusqu'à ce que nous décidions de revenir avec effort, avec peine, c'est-à-dire avec effort, avec travail, de revenir vers lui pour retrouver la communion perdue. Et toute notre vie, et le carême, vous le comprenez bien, en est le signe, le symbole, toute notre vie est une tension perpétuelle vers ce retour au paradis perdu. Saint Silouane disait aussi tout à l'heure que quand l'âme perd la grâce, alors elle recherche l'Esprit Saint. Autrement dit, notre expérience pécamineuse, l'expérience du péché, n'est pas par la grâce de Dieu, n'est pas seulement une déchéance. Elle est aussi une expérience, une épreuve qui nous fait prouver que nous aimons Dieu malgré tout et que nous tendons d'une manière effective avec nos efforts à revenir vers lui, à lui demander pardon et à aspirer à être embrassé, à être dans ses bras comme nous étions lorsque nous étions des petits enfants innocents encore. Cette expérience-là est vraie pour chaque forme de péché. Je n'ai pas besoin de vous les détailler. Chacun a les siens, chacun a sa manière. Et c'est la même expérience. Et donc c'est vrai pour chaque forme de péché. Et à chaque fois que nous, hélas, ne tenons pas compte de l'expérience de la chute qui nous ferait normalement décider de ne plus jamais tomber quand on voit les conséquences que cela engendre, mais nous retombons malgré tout, toujours attirés par le bas, plutôt que d'aller comme nous l'avions décidé, d'aller vers le haut. Donc ceci est vrai pour toute forme de péché, mais c'est vrai aussi pour l'orientation globale de notre vie. Je veux dire par là que le carême dans lequel nous entrons est le symbole, le signe, l'exercice d'abord physique par le jeûne, mais aussi spirituel par l'attitude que les évangiles nous ont montrée précédemment, l'attitude d'humilité, l'attitude de repentir, l'attitude du non-jugement des autres, l'attitude, c'est-à-dire l'attitude du pharisien, contrairement à l'attitude, pardon, du publicain, à l'opposé de celle du pharisien. Mais cela s'applique aussi pour un autre, et encore le symbole d'un autre retour, le retour plus fondamental vers le lieu de notre cœur. Souvent, nos péchés sont dus à ce qu'on s'octroie comme loisir. J'entends par loisir, non pas les loisirs artistiques, sportifs ou autres, mais la licence qu'on se donne pour faire quelque chose selon notre gré. Regardez que tous nos péchés sont toujours une forme de jouissance de soi-même, de repliement sur soi-même, dont la forme apparemment moralement plus ou moins grave n'est que d'une gravité pas limitée mais orientée en fonction de nos tabous, en fonction de notre éducation, en fonction de notre civilisation, en fonction de l'époque dans laquelle on vit, en fonction du lieu dans lequel on vit. Mais fondamentalement, nous avons tous cette orientation là. Et ces loisirs, cette licence que nous donnons, fait que nous nous attachons aux choses de la terre. Et lorsque nous parlons des choses de la terre, c'est pas uniquement les biens matériels, mais ce sont les biens personnels, les biens individuels, ce à quoi on est attaché, ne serait-ce que par exemple à notre bonne réputation, ou au bien que l'on fait, ou à notre quant à soi. Par exemple, et bien d'autres choses encore, qui ne sont pas directement une tâche faite à la charité due à son prochain. C'est donc, le carême consiste donc à apprendre à travers le renoncement de choses légitimes, comme des viandes et des poissons et d'autres choses encore, à travers cela, c'est apprendre à renoncer à quelque chose auquel nous sommes habitués, dont nous avons un certain besoin plus ou moins artificiel. La preuve, c'est que quand on reste 50 jours sans en jouir, on ne tombe pas malade et on ne meurt pas pour autant, on n'est même pas affaibli, mais au contraire, on trouve une certaine vigueur si on ne dépasse pas les limites aussi de la discrétion, mais on trouve une vigueur parce que l'Esprit Saint à ce moment-là a agi en nous et dépasse notre propre faiblesse, dépasse nos propres capacités, et c'est de cette manière-là que nous apprenons à vivre en Christ, pour le Christ et du Christ surtout. Bref, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que d'orienter notre carême vers cet effort de retourner vers le cœur, de faire attention aux choses spirituelles, c'est-à-dire faire attention à la qualité de notre relation avec Dieu d'une part et avec nos frères, tous nos frères d'autre part, qui va entre nos frères et sœurs, selon la chair ou dans nos familles, qui va aussi dans nos relations sociales, ce qui se conjugue dans toutes les situations où nous trouvons en face de nous des prochains, c'est-à-dire des gens, des hommes ou des femmes bien sûr, des personnes qui nous sont devenues proches et auxquelles il nous est nécessaire de faire attention et de donner notre vie. Pour faire cela, pour retourner vers le lieu du cœur qui est le paradis. Le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, cherchez le royaume des cieux d'abord au dedans de vous. C'est donc là où est le paradis. Pas d'une manière égoïste, en disant, moi, je coconne mon cœur, parce que là est la présence de Dieu. C'est au contraire, le retour vers soi est une ouverture aux autres. Mais pour accomplir cela, il faut dans un premier temps, comme le fils prodigue, souffrir douloureusement de son éloignement de Dieu. Et ayant découvert, ayant senti, expérimenté cet éloignement de Dieu, de nous vers Dieu, de chercher, de trouver les causes de cet éloignement-là. Les causes de cet éloignement, d'une manière ou d'une autre, c'est notre égoïsme. N'allez pas vous confesser simplement, globalement, je me confesse d'égoïsme. Ça se concrétise d'une certaine, chacun pour soi-même, de manière différente. Mais c'est pas simplement un égoïsme global, un égoïsme concret. Et c'est ça qu'il faut déceler avec la grâce de l'Esprit Saint, de manière à pouvoir désirer, à pouvoir susciter toujours avec l'aide de l'Esprit Saint, susciter en nous un repentir qui nous fasse revenir vers Dieu. Il est indispensable de découvrir quel est son péché, non pas par son mensonge, son adultère, sa jalousie ou ses meurtres. Bien sûr qu'il peut y avoir, ça, mais plus profondément, tout ce que je viens d'énumérer et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas énumérer pour pas vous donner envie de le faire. Et toutes ces autres choses procèdent d'une même tentation de péché, de repliement sur soi-même et d'abandon de Dieu. Réfléchissez un peu. Combien de fois par jour, combien de fois on préfère l'affection humaine, les choses de la terre, la nourriture, nos loisirs, notre travail, plutôt que les choses de Dieu. Je ne vous dis pas de ne rien faire et de contempler uniquement Dieu, mais combien de fois on se prend le prétexte de ne pas avoir le temps de nous tourner vers Dieu pour, entre guillemets, faire notre travail, ou pour jouir de l'affection des uns et des autres, plutôt que de donner notre affection à Dieu. L'affection est une bonne chose. Mais qui passe avant? Les autres? Les êtres qui nous sont sensiblement chers? Ou Dieu? Combien de fois on préfère la nourriture terrestre, le fromage et le saucisson le samedi soir, plutôt que la communion le lendemain avec tous les autres au corps du Christ? Tout ça, c'est des exemples gratuits, hein. Si quelqu'un se sent visé, croyez bien que c'est purement fortuit, évidemment. Mais il est nécessaire de découvrir ça, voir combien notre égoïsme est fondamental et nous écarte de Dieu. À la suite de ça, on peut effectivement être tenté du découragement. Oh, la vie chrétienne, c'est trop dur. J'arriverai jamais à me tourner vers Dieu. Moi aussi, je le pense. On le pense tous, d'une certaine manière. Ou tous, c'est une pensée, une tentation, si je puis dire. Mais nous savons aussi, par ailleurs, que le Seigneur est venu, non pas pour nous donner, j'insiste quelquefois là-dessus, non pas seulement pour nous donner un exemple de ce qu'il faudrait faire pour être saint, mais il a pris notre nature à tous, de manière à redonner à cette nature le pouvoir, la force, l'énergie de se retourner, c'est la métanoïa, le retournement intérieur, de retrouver le dynamisme que l'âme avait quand elle était encore dans le paradis, dans son état dans l'état d'innocence, qui lui permettait de rester en permanence en contemplation et en connaissance et en dialogue avec Dieu. Le carême, ce n'est pas autre chose que cette expérience-là. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous arrivons à Pâques, un peu fatigués, ayant peur de la semaine sainte, lourde physiquement de tous les offices là, mais comment en même temps la grâce de Dieu nous permet de dépasser cette fatigue et de connaître une joie que seuls ceux qui ont expérimenté Pâques savent ce qu'elle est, et une grâce très particulière qui devrait normalement illuminer notre âme non seulement le jour de Pâques mais tous les jours de notre vie. C'est ce qu'expérimentait par exemple un saint Séraphin de Sarov quand il accueillait les gens en disant « Oh ma joie !» Si nous pouvions en dire autant, d'une manière réelle évidemment, pas d'une manière artificielle, en essayant de se convaincre, comme avec la méthode Coué, que le Seigneur est bon, qu'on lui rend grâce, mais vraiment par une expérience profonde de l'action de Dieu en nous, et découvrant cette action en nous, nous verrons peu à peu qu'il y a un déplacement de la personnalité des uns et des autres, où notre véritable personne est une communion. Enfin, j'allais dire, notre personne, ce n'est plus nous, mais nous nous apercevons que c'est le Christ. Toujours nous, nous sommes, chaque personne est pas irremplaçable, mais est unique, si vous voulez, et ne démissionne pas, ne se noie pas dans le corps du Christ, mais tout en restant ce qu'elle est, elle acquiert, par renoncement, vous savez, on parle souvent de la kénose ici, par renoncement volonté propre, elle devient la volonté de l'autre, c'est-à-dire la volonté du Christ. Et c'est comme ça que peu à peu, on s'aperçoit que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est le Christ qui vit en nous. Et comme le Christ est un, qu'il y a un seul Christ, et que si nous vivons tous la vie du Christ, notre vie nous est donc commune. Et c'est cela qui peut faire naître en nous un amour commun, donc une expérience joyeuse et glorieuse, celle que nous ressentons à Pâques, qui n'est pas une manifestation d'une joie artificielle, mais qui est l'expression vécue, l'expérience personnelle et communautaire du resplendissement de la gloire de Dieu qui descend sur nous tous. Ceci est expérimentable même pendant le carême, bien sûr, mais le carême, d'une manière particulière, est la préparation indispensable, incontournable à cette expérience réellement mystique, quoique humble, et à répéter constamment, à nous relever constamment, et à en souffrir constamment, des retrouvailles avec Dieu, ce que dans un autre vocabulaire ou dans d'autres circonstances, on appelle les épousailles mystiques que l'on trouve souvent dans l'Ancien Testament. Dans notre carême, n'ayez pas peur de le suivre autant que faire se peut, autant qu'on vous laisse la liberté de le faire. Je sais que c'est pas toujours faisable, mais ne changez pas le carême, ne changez pas les lois du carême par votre volonté, par votre choix. Essayez toujours de vous conformer à la tradition multiséculaire, et j'allais dire multimillénaire, parce que du jeûne, parce que l'expérience de l'Église, du Nouveau Testament, est fondée sur l'expérience déjà de l'Ancien Testament. C'est la continuité. Et notre le charisme de l'Église, je sais pas comment vous l'expliquer, le charisme de l'Église est fondé sur l'expérience qu'avaient déjà les saints de l'Ancien Testament des moyens les plus adaptés et suscités par l'Esprit Saint pour se purifier et retrouver le chemin de la grâce de Dieu comme l'avait fait Adam. Et comme le fait Adam. Adam continue à vivre à travers nous, si je puis dire. Et la douleur, la peine, le travail, la condamnation qui a été celle d'Adam après le péché, c'est la nôtre. Le travail n'est pas une nouveauté. Le travail n'est pas une condamnation que le Seigneur aurait infligé à Adam à cause de son péché. Déjà avant, Adam travaillait. Le Père travaillait. Le Fils travaille. Il a œuvré. Donc le travail n'est pas en soi une peine. La peine, c'est que maintenant, le travail est un effort. Je parle pas du travail manuel ou intellectuel. Je parle du travail pour trouver Dieu, pour être avec Dieu. Maintenant, ça nous demande du labeur, ça nous demande du labeur pénible, je veux dire. Mais ce labeur pénible est aussi une grâce de Dieu, comme le labeur pénible de ne pas manger certaines choses pendant un temps prolongé, c'est non pas un sacrifice, non pas quelque chose que l'on offre à Dieu, mais c'est une grâce que l'on reçoit de Dieu de pouvoir dépasser sa condition individuelle pour entrer dans ce grand mystère et de la réalisation, de la transformation de l'être humain et par là de tout le cosmos par l'Esprit Saint qui passe à travers notre humble expérience et qui nous fait changer le cours des choses, car nous sommes, je le répète, les membres du corps du Christ. Restons humbles par cela, comme nous l'a indiqué l'évangile du publicain et du pharisien. Restons humbles. Ce n'est pas nous qui transformons le monde. Ce n'est pas nous qui sauvons le monde. C'est le Christ qui sauve le monde par la force de l'Esprit Saint pour les emmener vers le Père. Mais le Christ nous prend aussi comme ses membres, donc comme ses collaborateurs. Et cette transformation du monde, cette glorification du monde n'est pas notre œuvre, mais nous participons, si nous accomplissons ce retournement intérieur dont j'essaie de vous décrire quelques contours depuis le début de cette homilie-là, pour nous amener à travers une expérience réellement crucifiante, car nous aussi nous vivons la passion avec le Christ puisque nous sommes les membres de son corps, mais en même temps dans les crucifixions, si je puis dire, dans les croix ou dans la croix que nous sommes appelés à porter les chacun à notre manière, les uns et les autres, il y a déjà à l'œuvre cette expérience de résurrection et de transfiguration qu'il n'est pas indispensable que nous découvrions et que nous sentions. Dieu l'accorde chez certaines personnes comme Saint Séraphin de Sarov, mais pas le seul, de manière à ce que ce soit un témoignage pour l'Église que cela se manifeste réellement. Mais chacun d'entre nous participons d'une manière souvent invisible à ce grand mystère de régénération de la nature humaine et de tout le cosmos. Alors finalement, est-ce que 40 ou 50 jours sans fromage, sans viande et sans œufs, est-ce que ça vaut pas le coup quand même par rapport au but que nous nous fixons? Je vous laisse répondre. Je crois connaître votre réponse. Mais lorsque vous êtes tenté d'en prendre à la légère, de prendre un petit quelque chose par-ci, un petit quelque chose par-là, une exception, quand on fait une exception, on perd ce que j'appelais tout à l'heure notre virginité. On perd quelque chose. Tout de suite, votre cœur commence à danser à la perspective de vivre ce carême. Si demain midi, vous commencez à vous prendre une tranche de saucisson, en disant, oh, allez, c'est pas pour une tranche de saucisson que je vais être condamné. Après, vous êtes dans la peine tout votre carême. Si au contraire, vous avez le courage de résister le midi, le soir, le lendemain, et tout ça, c'est vrai que c'est de la peine. Mais en même temps, quel soulagement, non pas de vous dire « Ah, j'arrive à quelque chose », mais vous garderez quelque chose de la joie, de la pureté d'être avec Dieu. Vous voyez, ça s'exprime. Je pense pas que vous ayez la tentation de prendre une rondelle de nos saisons demain matin, mais ça s'exprime à travers bien des choses, mais d'une manière simple. D'une manière simple. Notre vie chrétienne, notre vie orthodoxe, c'est une vie facile. Faut simplement accepter et vouloir renoncer à soi-même. Faire la volonté de Dieu et des autres. La volonté de Dieu, bah, c'est pas qu'on mange pas de saucisson et d'œufs. Qu'est-ce que vous voulez que ça change la gloire de Dieu? Mais ça change quelque chose en nous. C'est à nous que ça change quelque chose. Une tranche de saucisson peut être notre perdition. Parce qu'une va en entraîner une autre, et puis la crise de foi après. Enfin, mais la crise de foi, sans eux ou vous, bien sûr. Hein. Enfin, c'est le cas de le dire. Voilà, je vous souhaite un bon carême. Je vous souhaite une bonne transfiguration. Ayez que la croix que vous portez, chacun à votre manière, ne soit pas seulement une peine, ne soit pas seulement une passion, mais sentez que dans la croix que vous portez et que nous portons, sentez qu'il y a cette force de la résurrection du Christ qui la porte pour nous. Quelle que soit notre peine, quelles que soient nos chutes, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos péchés, même les plus graves, portons-les et portons notre repentir avec patience, en sachant que c'est le Christ qui se bat pour nous et en nous. Et puisqu'il est vainqueur, nous sommes en lui, nous sommes vainqueurs. Et tout le problème est de lui laisser la liberté d'être vainqueur à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, la joie que vous connaîtrez à Pâques, participez-y déjà dès ce soir. Sentez cette joie. Elle va se manifester notamment au moment de la demande de pardon les uns avec les autres. Pas forcément parce qu'on s'est fait du tort. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient fait aucun tort, je crois d'ailleurs tout le monde, et j'espère ne pas avoir fait tort à tout le monde en tout cas. Donc il y en a auxquels je vais demander pardon, mais je n'ai pas, il n'y a pas de matière directe. Je ne vous ai pas blessé directement, mais pourtant par mes péchés individuels que vous ne connaissez peut-être pas, de cette manière-là, je vous blesse effectivement. Par mes propres péchés, j'obscurcis votre âme et votre capacité de vous tourner et de sentir Dieu. Et c'est réciproque. Inversement, votre sainteté, vos efforts, illuminent ma propre vie et changent quelque chose en moi. Donc, je peux effectivement, même si je ne vous ai pas fait de tort, je peux réellement vous demander pardon. Parce que le pardon que je vous demande, c'est le pardon pour tous mes péchés. Vous êtes les membres du corps du Christ. Donc, avec le Christ, je vous demande pardon. Et vous, en vous demandant pardon mutuellement, vous exprimez la même réalité. Et de cela naît forcément une libération, doit naître nécessairement une libération intérieure, une joie de se savoir retrouver la communion les uns avec les autres dans une harmonie quasi parfaite, parce qu'elle est l'harmonie donnée, suscitée par l'Esprit Saint et offerte gratuitement par Dieu. Et vous savez, nous le remarquons à Pâques, mais je le fais rarement remarquer à l'entrée du carême, le baiser de paix, de pardon que nous allons nous donner dans quelques minutes, c'est le même baiser, va être repris précisément la nuit de Pâques, ou après l'office de Pâques, avant de commencer la liturgie, nous allons avoir cet immense baiser de paix les uns avec les autres, non seulement les 150 personnes qui seront entassées dans notre chapelle, mais à travers eux, symboliquement, avec tous les autres orthodoxes qui ont vécu depuis le début, depuis la nuit des temps jusqu'à, je sais que les orthodoxes ne sont pas issus de la nuit des temps directement, parce que, mais l'Ancien Testament déjà a engrangé des membres du corps du Christ. Donc tout cela, nous sommes en communion avec eux, et c'est ce baiser de paix universel. Si bien que le baiser de paix carémique de ce soir, qui a quelque chose d'ascétique, puisqu'on se demande pardon, va trouver son aboutissement la nuit de Pâques, où là, le pardon que nous serons donné et que nous aurons essayé de conserver et même d'approfondir pendant ces 40 jours et toute notre vie, va aboutir à ce baiser de paix festif et résurrectionnel le jour de Pâques. Mais sentez déjà aujourd'hui cette joie dans le fond de votre cœur, et sachons que s'il y a une ombre à cette joie-là, cette ombre n'est pas à trouver dans la responsabilité de l'un ou de l'autre autour de nous, mais uniquement de nous-mêmes qui avons le cœur fermé par notre opposition connue ou inconnue, consciente ou inconsciente, à des ennemis supposés, quels qu'ils soient. Or, quelqu'un qui ne fait pas ma volonté est déjà un ennemi. Je ne parle pas d'ennemis qu'on a envie d'aller trucider, bien sûr. Mais tous ceux qui s'opposent à moi, tous ceux qui se sont d'une certaine manière deviennent mes ennemis. Et tant que j'ai un ennemi, je ne peux pas connaître en plénitude cette joie. Bon carême, bonne croix, parce qu'il y a une forme de crucifixion dans le carême. Mais au milieu du carême, l'Église va planter la fête de la glorification de la Sainte Croix, qui va, nous savons que ça va être dans 3 semaines. En attendant, nous sommes éclairés, si l'on peut dire, nous sommes attirés par la lumière de la croix, laquelle va, quand ils y seront, éclairer l'ensemble et va nous redonner la force d'aller jusqu'à la passion, de nouveau de la croix, pour connaître par paliers, comme cela, toujours illuminé par la Sainte Croix, c'est-à-dire illuminé par le Christ crucifié et ressuscité, nous aboutirons nous aussi à la résurrection pour la gloire de Dieu dans les siècles des siècles.